Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a trois Juliettes célèbres en France, Juliette Gréco, Juliette Drouet, Juliette Récamier, dont Franck Ferrand nous parle aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. En cherchant bien, on doit même pouvoir en trouver d'autres. Pour le public, Madame Récamier, c'est d'abord, vous savez, cette très belle femme immortalisée par le peintre David sur une méridienne directoire. On sait aussi plus ou moins qu'elle a tenu un salon très couru au 19e siècle, mais que sait-on au juste de sa vie réelle, de son esprit, de ses goûts, de ses amis et de ses amants, au-delà de sa relation avec Chateaubriand? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble dans l'heure qui vient.
Et vous avez invité la biographe de Juliette Récamier.
Et oui, Catherine Decourt, qui a déjà par le passé travaillé sur les vies de plusieurs femmes célèbres. J'ai aussi invité mon ami Hippolyte Wouters, grand connaisseur d'Alexis de Tocqueville, et dont une jolie pièce de théâtre, La Conversation, fait revivre un dialogue entre ces deux très brillants esprits, Tocqueville, vous imaginez, et Madame Récamier. Finalement, c'est cela que je vous propose cet après-midi, le portrait sensible d'une des brillantes causeuses, une des plus brillantes peut-être qui furent jamais.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Dans ce dialogue de théâtre dont je vous parlais à l'instant, La Conversation, Hippolyte Wouters fait dire ceci à Madame Récamier. « Mon ami Loménie disait de nos gouvernants qu'ils sont en fait des citoyens austères, à qui les déclarations et les protestations contraires ne coûtent pas plus qu'une formule de politesse, qui passent leur vie à répudier le vaincu, à acclamer le vainqueur, et qui doivent à cette heureuse flexibilité de caractère de s'imposer, par dévouement pour leur pays, le poids des honneurs et le désagrément des richesses. » Vous avouerez qu'à la lueur des événements que nous sommes en train de vivre, en cette drôle d'année 2013, j'espère qu'elle restera drôle longtemps, vous avouerez que ce sont des propos qui paraissent d'une étrange actualité, à croire que les siècles passent et que les gouvernants restent les mêmes. Madame Récamier, elle, n'est jamais passée de mode. La belle des belles, comme on l'a surnommée, fait partie de ces figures historiques sur lesquelles le temps paraît n'avoir pas de prise. Pour avoir elle-même traversé bien des époques, née sous Louis XVI, elle se marie sous la Terreur, elle commence sa vie mondaine sous le Directoire, elle devient une égérie parisienne sous le Consulat, à une époque où son mari est le régent de la Banque de France. Un temps exilée sous l'Empire, elle devient la grande dame de la Restauration, puis une sorte de monument, si l'on peut dire, sous la Monarchie de Juillet, dans son couvent de l'Abbaye aux Bois, avant de s'éteindre sous la Deuxième République, après la Révolution de 1848. On peut donc dire qu'elle est constamment restée, sinon sur le devant de la scène, en tout cas dans les proches coulisses. Je me rappelle l'époque où j'étais étudiant à l'IEP de Paris, dont plusieurs des annexes sont situées justement dans le pâté de maison qui est hanté par le souvenir de Madame Récamier. Nous pensions souvent à elle, figurez-vous. Nous admirions sa finesse, l'incroyable ductilité d'esprit qui faisait d'elle l'interlocutrice privilégiée des grandes consciences du 19e siècle. Mais autant l'avouer, à l'époque, ni mes camarades, ni moi n'avions conscience des travers, des manquements, des insuffisances d'une femme, somme toute mondaine et dont la vie est peuplée de zones d'ombre. Catherine Decourt, dans la belle biographie qu'elle vient de consacrer à Madame Récamier, écrit « Toutes ces énigmes n'auraient pu exister sans la volonté de Juliette, qui a entretenu le mystère sa vie durant et a voulu qu'il persistât après sa mort. » Peu de personnes ont autant contrôlé leur image que Madame Récamier, au propre comme au figuré, non dans un but de manipulation, mais par pudeur, élégance et naturelle réserve. Juliette Récamier, dont le mythe est né dans la société quelque peu interlope du Directoire, était à l'opposé de tout ce qui peut ressembler à de la vulgarité. Plus tard, au temps de sa liaison avec Chateaubriand, elle protégera celle-ci de la curiosité encore plus du galvaudage. Très consciente que le mystère dont elle était entourée était une force, elle le cultiva. Elle se faisait rendre les lettres adressées à ses correspondants ou exigeait que ceux-ci les brûlent. Un mystère donc, cette Juliette Récamier. La discrétion naturelle de la dame dut-elle en souffrir? Nous allons, dans l'heure qui vient, tenter de mieux connaître cette personnalité clé de la première moitié du 19e siècle.
«
Un extrait sur Europe 1 de la sonate numéro 1, un menuet de Jean-Pierre Bord. A tout de suite pour parler de Juliette Récamier.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous sommes en compagnie aujourd'hui sur Europe 1 de Catherine Decour, qui est historienne, écrivain et biographe, auteur de Juliette Récamier, l'art de la séduction chez Perrin. Également avec nous, Hippolyte Wouters, qui est avocat et dramaturge.
Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être venu nous parler de Juliette Récamier. J'ai relu évidemment pour la circonstance votre pièce de théâtre, Hippolyte, la conversation que vous avez jouée vous-même, parce que je vous ai vu la jouer, vous incarniez Alexis de Tocqueville. La plupart des hommes politiques ne se laissent ni désespérer ni énerver par les doutes. Et faites-vous dire à Juliette Récamier, parce que vous placez dans sa bouche un certain nombre de citations de l'époque, on les accuse souvent d'agir sans conviction. C'est peut-être moins fréquent qu'on ne l'imagine. Ils possèdent seulement la faculté précieuse de se créer des convictions passagères suivant leurs passions et leurs intérêts du moment. Et ils arrivent ainsi à faire assez honnêtement des choses assez peu honnêtes. C'est bourré de résonance, hein, cette pièce de théâtre.
Ah ben oui.
On est dans des périodes très troublées. Il faut le dire. Alors, la pièce prend place à la toute fin de la vie de Juliette, hein, puisque c'est à l'époque de sa relation tout à fait intellectuelle avec Alexis de Tocqueville. On est donc dans les années 1840, sous la monarchie de Juillet. Évidemment, ce que je vous propose, c'est de revenir sur l'ensemble de la vie de cette femme qui a traversé tous les régimes, Catherine de Cour, pour une raison toute simple. C'est qu'en vérité, à cette époque, les régimes changent très souvent. On a eu donc les différentes phases de la Révolution, hein, avec l'Assemblée constituante, la Convention, la Terreur, le Directoire, et puis le consulat à vie, l'Empire, puisque c'est une période difficile pour elle, évidemment, la Restauration des Bourbons, puis la Révolution des Trois Glorieuses et la Monarchie de Juillet. Elle s'éteindra après la Révolution de 1848, sous la Deuxième République, au moment où Louis-Napoléon est en train d'accéder au pouvoir. C'est un vraisemblable comme parcours.
Oui, ces gens-là ont dû avoir l'impression de vivre très longtemps.
Mais oui.
Né au début du règne de Louis XVI, est morte quand le fils d'Hortense, son ami, va prendre le pouvoir.
C'est assez stupéfiant tout ça. Alors, pourquoi l'appelle-t-on Juliette Récamier? Puisque quand on regarde la liste de ses prénoms, il y a certes Julie qui est son deuxième prénom, mais il n'y a pas de Juliette.
Parce qu'à cette époque, les jeunes filles se choisissaient souvent un second prénom au moment de leur mariage. C'était un signe d'affirmation. C'est ainsi que mademoiselle Necker, qui s'appelait Louise, a choisi Germaine, que Joséphine s'appelait autrefois Rose, et que notre Julie, eh bien, a choisi de s'appeler Juliette.
Alors, oui, c'est vrai, on parlait l'autre jour d'ailleurs de Joséphine de Beauharnais, dont le vrai prénom était Rose. Hein. C'était aussi des modes, car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au moment où Madame Récamier commence à faire parler d'elle, la mode est triomphante à Paris. Hein, on est sous le Directoire. Alors, il faut peut-être rappeler d'où elle vient, cette jeune fille, en fait. Est-ce que son enfance est tellement passionnante, finalement?
C'est une enfance heureuse. Elle est fille d'un notaire royal de oui. Lyon, Jean Bernard.
Enfance dans une famille bourgeoise, on peut dire.
Bourgeoise aisée, très cultivée, puisque quand sa famille se fixe, quand elle a une dizaine d'années à Paris, elle reçoit des cours de la harpe, qui est quand même le précepteur du tsar Alexandre, d'Hubert Robert.
On a parlé l'autre jour de la harpe, puisque l'impératrice Catherine de Russie avait choisi ce précepteur suisse pour son petit-fils préféré, hein, pour Alexandre, le futur Alexandre Ier. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a bénéficié de l'enseignement de quelqu'un de très éclairé, évidemment.
De Boieldieu pour la harpe, et puis l'art de la conversation qu'on pratique au foyer familial. C'était extrêmement important, cette éducation du manteau de la cheminée, comme disait la comtesse de Boigne. Oui.
Alors la comtesse de Boigne, qui d'ailleurs a livré sur toute cette période, et sur les salons, et sur les personnalités que nous allons rencontrer aujourd'hui, des croquis assez extraordinaires. On est dans une époque d'esprit, Hippolyte Wouters. Hein. L'art de la conversation n'a jamais été porté aussi haut qu'à la fin de l'Ancien Régime, et pendant cette période révolutionnaire, où finalement, les gens parlent, si j'ose dire, comme des livres. C'est assez étonnant, cette capacité à maîtriser le langage dans ce qu'il a peut-être de plus volatile, c'est-à-dire la conversation, précisément.
Ben oui, et encore, on n'a à mon avis, perdu beaucoup de perles parce qu'enfin, il n'y avait pas d'enregistrement. Et donc, on se dit que ce n'est que la face visible de l'iceberg. Mais c'est vrai qu'ils avaient à ce moment-là l'art de la conversation, parce que peut-être qu'ils avaient moins d'autres distractions. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas
oui, c'est vrai.
Une série de choses.
La conversation était ben peut-être oui. le principal dérivatif voilà. aussi. Hein. C'était, voilà. c'était ça. Voilà. Et puis, on avait ce qu'on a tendance évidemment à perdre aujourd'hui, c'est-à-dire des références. Donc on pouvait jongler avec des allusions à la mythologie grecque, à la politique ancienne, à l'histoire, à toutes sortes de savoirs qui étaient maîtrisés par tous, qui donc créaient évidemment un champ de référence qui facilitait cette conversation.
Et puis il y avait de la surenchère, il y avait de l'émulation.
Il y avait les salons.
Nous le mot, c'est une balle qu'on se lance et qu'on doit faire rebondir très vite la conversation.
Chacun doit attraper la balle en quelque sorte et vite la relancer, c'est assez brillant. Alors, comme le dit Hippolyte Wouters, on n'a pas d'enregistrement de la conversation, que ce soit chez Madame de Staël, chez Madame de... Alors oui.
Oui et non. Parce que, bon, personnellement, je ne connais Madame Récamier que par ricochet, si je puis dire, dans la mesure où je m'étais surtout intéressé à Tocqueville et que j'avais fait une petite pièce de théâtre qui s'appelait La Conversation et qui est une conversation entre Tocqueville et Madame Récamier. Mais j'ai retrouvé des sources assez originales, si je puis ainsi m'exprimer, parce que Tocqueville n'a jamais parlé de Madame Récamier, ni dans ses souvenirs, ni même ou à peu près dans sa correspondance, forcément pas dans ses autres œuvres, mais il en parlait assez souvent, et il allait assez souvent aussi chez un certain William Nassau Jr., qui était un Américain à Paris, lequel était un admirateur inconditionnel de Tocqueville, et notait fébrilement... tout ce que Tocqueville racontait. Eh bien, j'ai retrouvé, d'ailleurs, au château de Tocqueville, les traces de ces conversations tenues par Tocqueville, et là, il parle de Madame Récamier, et je vous en citerai éventuellement des passages tout à l'heure, si cela vous intéresse.
Avec grand plaisir. Alors, les parents de Juliette viennent, enfin, de celle qui s'appellera, qui s'autonommera Juliette un peu plus tard, s'installe à Paris, elle a à l'époque 10-11 ans, et nous allons très vite venir à son mariage. Ce mariage, c'est sinon le grand, en tout cas l'un des grands mystères de la vie de Juliette Récamier, puisque certains ont carrément dit qu'elle avait épousé son père biologique.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Un extrait sur Europe 1 de la sonate Presto de Jean-Pierre Bord. Nous parlons aujourd'hui des secrets de Madame Récamier.
Eh oui, des secrets. Là, on arrive dans le principal, d'ailleurs, de ces secrets. C'est charmant, hein, cette harpe. On a quand même ce sentiment d'une extrême élégance dans cette période du directoire, du consulat. J'ai sous les yeux le portrait de Madame Récamier par Gérard, parce qu'on évoque toujours la célèbre méridienne de David, mais le portrait par Gérard est une véritable merveille et on a envie de la connaître mieux, parce qu'elle est d'une beauté sur la couverture de l'ouvrage de Catherine Decour, Juliette Récamier, l'art de la séduction, qui est publié chez Perrin. Alors vous avez fait une découverte pendant les recherches qui devaient aboutir à cette biographie, Catherine Decour. Au départ, j'allais dire comme tout le monde, en tout cas comme un certain nombre de personnes, vous pensiez vous aussi qu'en vérité Juliette avait épousé son propre père. Alors il faut peut-être revenir sur cette théorie que j'ai développée déjà à ce micro dans une émission il y a longtemps.
Ce qui expliquerait que son mariage, et c'en est certain, a été un mariage blanc, ce qui a fait partie du mythe Juliette Récamier. Sa mère va marier Juliette à 15 ans au banquier Récamier, riche banquier, lyonnais comme la famille de Juliette. Et on est en pleine terreur, le roi a été décapité 2 mois auparavant.
Eh oui.
Personne n'est sûr de survivre, surtout pas le banquier Récamier, qui pour s'entraîner à être guillotiné va assister tous les jours aux exécutions.
Oui, pour être sûr de tenir
le choc. Drôle d'enterrement de vie de garçon.
Oui.
Et en fait, le banquier, oui, été l'amant de Madame Bernard, de la mère de Juliette.
De la mère de Juliette. C'est-à-dire qu'en fait, ce banquier est très proche de la famille. Il est carrément l'amant de la mère de Juliette. Donc on peut se dire, est-ce qu'il ne serait pas le père de Juliette?
Est-ce qu'il ne serait pas le père? Il aura toujours des sentiments très paternels envers Juliette. Et il écrit au moment de son mariage une longue lettre à sa famille à Lyon, Lyon qui était aussi persécutée.
Oui, une ville martyre, on peut dire.
Pour expliquer ce mariage bizarre. Et il dit des choses très curieuses. Il dit « Je n'en suis pas amoureux. » C'est bien, ça, bien le seul en France. Et il dit « Elle n'est pas belle. » Ça sera aussi le seul...
Elle a l'air sublime. Hein,
il cherche à rassurer, en somme, cette famille qui va être privée de l'héritage. Parce qu'un début est évidemment, quand il serait guillotiné, de faire de la jeune veuve l'héritière de son mari. Alors, était-il son père? Il l'a respecté, le mariage a été blanc. Et ça a été un mariage, ma foi, aussi heureux que c'était possible. On a fait une espèce de vieillard lubrique. C'était un homme charmant qui ne songeait qu'à gâter sa femme, qui ne songeait qu'à la choyer et qui s'effaçait quand un soupirant arrivait. Il proposait le divorce. Ceci dit, quand il y aura quelqu'un qui voudra l'épouser, le prince Auguste, là, ça sera tout à fait autre chose. Donc, je suis persuadée, un petit peu comme tout le monde, qu'il est son père. Et puis, au fur et à mesure que j'avance, il y a des choses qui ne collent pas. Notamment la réaction de la famille lyonnaise. La famille lyonnaise ne pense pas un instant, et elle a assisté au début de la liaison avec la mère, qu'il puisse être le père de l'enfant. Et surtout, plus tard, quand Juliette va penser au suicide, parce qu'elle va vouloir épouser le prince de Prusse, et elle va donc demander non le divorce à son mari, mais l'annulation, en fait la nullité.
Et parce ça, qu'après tout, c'est un mariage blanc, il aurait pu être annulé. Hein.
Oui, mais c'était très dur pour le mari de faire allusion à cette non-consommation du mariage. Et à ce moment-là, il va lui écrire et lui dire « si je regrette d'avoir respecté certaines répugnances ». Donc cette jeune femme avait montré des répugnances, si elle les a montrées, c'est qu'il a songé à être son mari, c'était pas un pervers, s'il a songé à l'être.
Oui, ça aurait été de l'inceste pur.
Ça aurait été de l'inceste. Ouais. Et elle, en songeant au suicide, parce qu'elle voulait épouser Auguste, et son mari lui disait, tant qu'à faire, soyons de vrais époux. Elle était prise entre deux contradictions. Donc, elle va lui dire, je regrette de ne pas avoir été pour vous tout ce que je devais. Ah. C'est-à-dire, et on a le billet, est à la BN.
Oui, là, il y a bien un engagement moral qui signifie qu'il n'était donc pas son père.
Alors. Voilà, je n'ai pas fait mon devoir, j'ai pas été une épouse complète pour vous, etc. Et ça, c'est quand même la preuve qu'il était l'amant de Madame Bernard, mais après la naissance de Juliette, qu'il a toujours considéré comme sa fille, ce qui explique les sentiments paternels.
Voilà un mystère éclairci grâce à vous, Catherine Decour. Alors cette liaison qui devait aboutir, c'est fiançailles, si l'on peut dire, qui devait aboutir à un mariage avec le prince Auguste de Prusse, nous y venons précisément dans un instant.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit sur Europe 1 consacré maintenant aux amours de Juliette Récamier avec le prince Auguste de Prusse.
Oui, ce prince Auguste de Prusse, c'était le neveu du célèbre Frédéric de Prusse. Hein, c'était le cousin du roi régnant. Il avait évidemment été entraîné dans toutes les guerres napoléoniennes, comme tous les princes allemands de l'époque. Et peu après la bataille d'Iéna, il avait été fait prisonnier par la cavalerie de Murat et on l'avait retrouvé donc à Paris. Évidemment, il a d'abord été interné à Soissons et puis très vite autorisé à venir à Paris, et où il est devenu parce qu'il avait une prestance, une jeunesse. Enfin, vous imaginez le prince prussien qui débarque dans ses salons parisiens. Je parlais de la mode tout à l'heure, mais il est devenu tout simplement très vite à la mode. Alors, est-ce qu'il a rencontré Madame Récamier chez Madame de Boufflers ou chez Madame de Custine? Il y a encore des débats sur la question. Toujours est-il qu'il semble bien que d'emblée, il n'ait pas été indifférent l'un à l'autre. Le 4 avril 1807, le prince confie à Madame de Staël son regret de ne pouvoir lui faire rendre visite au château d'Acosta, qui se trouve près de Melun, où elle se trouvait en résidence surveillée elle-même, et sans doute à ce moment-là, exprime-t-elle le désir de le recevoir en des jours meilleurs, hein, quand la police de Fouché desserrerait un peu son étau dans sa célèbre résidence de Coppet, donc en Suisse. La paix de Tilsit va évidemment tout arranger, si je puis dire, et c'est à ce moment-là que Madame Récamier et le prince de Prusse commencent à échanger des lettres. Et dans une lettre, Madame Récamier, qui d'ailleurs est en train de se remettre d'un très grave accident qu'elle a eu sur la route en passant, elle était passée dans le Jura, et dans le Jura, il y a eu la voiture a versé, enfin les postillons semble-t-il sont morts, enfin ça a été une affaire terrible, et elle signale au prince qu'elle va se trouver à Coppet. Elle lui dit que ce serait une très bonne idée, puisqu'il avait l'intention de venir prendre les eaux à Aix, et bien de venir se reposer lui-même à Coppet. Dans ce site l'un des plus beaux du monde, écrit Catherine de Cour, la vie n'était qu'élan, gaieté et perpétuelle animation. Germaine de Staël était le mouvement incarné. Aussi fallait-il prendre le rythme de Coppet. La comtesse de Boigne, qui s'y rendit plusieurs fois depuis la propriété de son mari, qui se trouvait aux portes de Chambéry, en a laissé un témoignage très vivant. Voilà ce que disait la comtesse de Boigne. La vie à Coppet était étrange. Elle paraissait aussi oisive que décousue. Rien n'y était réglé. Personne ne savait où l'on devait se trouver, se tenir, se réunir. Il n'y avait pas de lieu spécialement attribué à aucune heure de la journée. Toutes les chambres des uns et des autres étaient ouvertes. Ah, voilà une indication. Madame de Staël groupe autour d'elle, vous le savez, toutes sortes d'amis, d'admirateurs. Elle organise donc ses saisons de Coppet, et il semblerait bien que la saison de 1807 ait été la plus brillante de toutes. En tout cas, elle est particulièrement réussie, même si Madame Récamier, de son côté, pour des raisons qu'on évoquera dans un instant, s'y trouve extrêmement languide, triste. Elle est dolente, elle est lasse. Il faut dire qu'elle vient de perdre sa mère, notamment. Elle a eu grand besoin de repos. Et c'est la raison pour laquelle Madame de Staël a réussi à la convaincre de venir à Coppet. Le prince lui-même y arrive le 11 août. Et à ce moment-là, personne dans tous les invités qui se trouvent là, à ce moment-là, personne ne doute qu'il est venu pour rencontrer, pour retrouver la mélancolique Juliette. Il a une véritable passion pour elle. Il vit, on peut dire, dans l'ombre de son idole. On peut dire qu'il a eu avec Madame Récamier déjà une première histoire qui est une histoire d'amour. Tout ça, on va y revenir dans un instant. Toujours est-il que Madame Récamier sent le danger. Alors que fait-elle dans ce cas-là? En bonne femme, épouse vertueuse, elle va écrire à son mari, à Paris. Elle demande à Monsieur Récamier de la rappeler au plus vite. « Il faut que je rentre », lui dit-elle. Et bêtement, si je puis dire, Monsieur Récamier, qui ne voit pas le mal, lui répond que son crédit encore mal assuré a besoin de l'appui du gouvernement et que la présence de sa femme, qui est très liée à Madame de Staël, qui elle-même est en grande difficulté avec le gouvernement, en pleine disgrâce, tout ça pourrait le déranger. Donc non, ma chère amie, vous êtes à Coppet, restez-y, prenez du bon temps, demeurez à Coppet. Alors là, évidemment, le prince de Prusse va pouvoir se montrer d'autant plus insistant. Et on peut dire qu'à ce moment-là, il déclare clairement à Madame Récamier que puisqu'après tout son mari ne souhaite pas tellement qu'elle soit auprès de lui, eh bien, et puis que son mariage est resté blanc, hein, on l'a vu et ça se sait et elle ne le lui a pas caché, eh bien, elle n'a qu'à se séparer de son mari, elle n'a qu'à obtenir l'annulation, et à ce moment-là, il en fera, lui, tout prince de Prusse qu'il est, prince d'une maison royale, en dépit de tous les préjugés, en dépit de tout ce qu'on peut imaginer, il en fera bien son épouse. Et il y a ce moment assez extraordinaire dans cette saison de Coppet, où l'on va voir Madame Récamier, finalement, au bras du prince Auguste de Prusse. Ils se considèrent plus ou moins comme des fiancés, en quelque sorte. Alors ce sont des promenades sur le lac, très romantiques. On est dans la plus pure époque romantique et dans un lieu qui est alors romantique en diable. Le prince rame, n'est-ce pas? Juliette tient le gouvernail. On peut dire qu'il y a entre eux vraiment une très grande, à ce moment-là, une plus que de la complicité, plus que de la connivence. Un soir, écrivait Maurice Levaillant, qui est le premier à s'être penché sur cette affaire après Édouard Herriot, on alla jusqu'au rocher de Meillery, divinisé pour les âmes sensibles par les souvenirs de Rousseau et de son Héloïse. Devant ces irrécusables témoins de la fidélité, le prince et Juliette, confondant leurs aveux, crurent les rendre définitifs. Le temps cependant passait et pressait. Une lettre de Berlin réclamait le retour du prince. Il dut fixer la date de son départ au dernier jour du mois. Il obtint alors que Juliette écrivit à M. Récamier la lettre décisive où elle lui signifierait sa résolution de reprendre sa liberté, la liberté de vivre enfin et d'aimer. La réponse aurait juste le temps de parvenir à Coppet avant la séparation redoutée. On ne disposait plus que de 15 jours, 15 jours pendant lesquels s'accrut l'exaltation des fiancés. Madame Récamier, dans une confidence de 1841, n'en fait point mystère. Donc voilà ce qu'elle disait des années, tant d'années après les faits. Dans la persuasion où j'étais que nous allions nous marier, nos rapports étaient fort intimes. Toutefois, je dois vous prévenir qu'il lui manquait quelque chose. Le souvenir de ces 15 jours et celui des 2 premières années de l'abbaye au bois, au temps des amours avec monsieur de Chateaubriand, sont les plus beaux, les seuls beaux souvenirs de ma vie.
Un extrait sur Europe 1 de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz.
Je jure par l'honneur et par l'amour de conserver dans toute sa pureté le sentiment qui m'attache à Juliette Récamier, de faire toutes les démarches autorisées par le devoir pour me lier à elle par les liens du mariage et de ne posséder aucune femme tant que j'aurai l'espérance d'unir ma destinée à la sienne. C'est signé Auguste, prince de Prusse, Coppet le 28 octobre 1807. À quoi le même 28 octobre, répond Juliette, je jure sur le salut de mon âme de conserver dans toute sa pureté le sentiment qui m'attache au prince Auguste de Prusse, de faire tout ce que permet l'honneur pour faire rompre mon mariage, de n'avoir d'amour ni de coquetterie pour aucun autre homme, de le revoir le plus tôt possible et quel que soit l'avenir, de confier ma destinée à son honneur et à son amour. Que de belles déclarations et qui pourtant, Catherine de Cour, n'aboutiront pas.
Ce sont des fiançailles tout à fait officielles,
ben oui.
Tout à fait, et sans doute rendues possibles, vous en avez parlé, par la mort de la mère
la
de
mère,
Juliette.
Oui, voilà.
Cette mère qui lui tendait toujours un miroir narcissique, t'es belle, tu es la plus belle, etc. Elle va enfin pouvoir mettre son amour ailleurs que dans son propre reflet. Et c'est Auguste qui est là, et je pense qu'il a représenté la plus grande change du rêve de Juliette, c'est-à-dire de fonder une famille, d'avoir un mariage suivant son âge et son cœur, c'est ses expressions. Mariage qu'elle idéalisait d'ailleurs. Et Auguste lui offrait ça. Et puis, évidemment, retour à Paris, elle va se heurter à la réalité. Et mesurer.
Fin du rêve.
Fin du rêve.
Qui vole en éclats.
Tous, d'abord, les difficultés tout d'un coup de M. Récamier quand elle parle de nullité de mariage, car elle veut l'épouser religieusement, Auguste. Elle veut être totalement libre, donc ne pas avoir été mariée du tout, qu'il n'y ait pas de divorce.
Et la belle des belles restera mariée à Monsieur Récamier, finalement.
Absolument.
Cette histoire d'amour n'aboutira pas. C'est une frustration terrible dans l'histoire.
Oui, et elle va agir avec lui, comme avec tous ses soupirants. C'est-à-dire qu'au lieu de lui dire non, c'est pas possible, pendant 2 ans, qu'est-ce que je dis, pendant 2 ans, pendant tout le reste de la vie d'Auguste, elle va gagner du temps à termoyer. Au bout de 2 ans, elle lui envoie une bague, je le reverrai.
Ouais.
Il sera enterré. Avec cette bague, il fera un cabinet dédié à Juliette dans son palais de Berlin.
Alors ça, c'est toute la théorie d'Hippolyte Vouters. Selon lui, Juliette Récamier n'aura fait que faire lanterner tous ses soupirants.
Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à un personnage plein de mystères, Juliette Récamier.
Et oui, alors cette belle des belles avait toutes sortes de soupirants. On peut dire qu'ils étaient tous amoureux d'elle, Hippolyte Vouters.
Eh bien oui. Tocqueville, d'ailleurs, le dit justement dans ses conversations. Il disait ceci. Il n'y restait plus rien de son ancienne beauté, parce qu'enfin,
c'est la fin.
Mais nous étions tous amoureux d'elle et ses esclaves. Elle nous gouvernait par 2 petites préférences, en permettant à l'un de nous de venir 5 minutes plus tôt ou à un autre de rester 5 minutes plus tard. Un peu comme Louis XIV élevait un courtisan au nu en permettant à l'un de porter le bougeoir ou à l'autre de s'appuyer sur son bras. Mais elle était vertueuse. si c'est être vertueuse que de laisser croire à une douzaine d'hommes qu'elle allait leur accorder ses faveurs, mais que quelque événement survenait toujours pour l'empêcher de le faire.
Et quel événement ? Je précise, puisque nous sommes à la radio, que vous ne lisez pas, Hippolyte. Hein, vous nous récitez tout ça de
c'est
mémoire.
C'est la coquetterie de Juliette. Que cette coquetterie, Madame de Boigne dit qu'elle l'a élevée jusqu'au génie.
Et oui, voilà.
Alors,
qu'est-ce que c'est que cette coquetterie sur laquelle vous vous attardez, Catherine de Cour ?
Mais oui, parce que Juliette est tellement merveilleuse qu'on voit cette dame blanche traverser les salons et qu'on se dit c'est une sainte. Et puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et j'en ai eu la confirmation le jour où je suis allée sur la tombe de Juliette. Je fais toujours pour mes personnages quand c'est possible, au cimetière Montmartre. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Deux soupirants qui ont consacré leur vie à Juliette, qui sont enterrés à côté. Le troisième est dans la tombe avec elle.
C'est incroyable.
Alors,
ça,
c'est quand même pas normal. Je me suis dit, c'est pas normal. Et à ce moment-là, je me suis, si je peux dire, autorisée à creuser un peu ce gros défaut de Juliette, car elle a fait beaucoup souffrir. Et Jean-Jacques Imbert, Auguste de Staël ont eu des vies sacrifiées complètement.
Aujourd'hui, on dirait un peu peut-être, et pardon pour le terme qui va peut-être heurter certaines oreilles, mais qu'elle était un peu une allumeuse en quelque sorte.
Eh bien, le terme ne va pas parce que il a
oublié d'éteindre
une connotation de vulgarité.
Oui, et puis purement sexuelle, alors que
voilà,
ça n'est pas ça.
C'est pas ça du tout. Ça serait plutôt le... Et puis elle était très tendre, extrêmement tendre. Alors on dit, elle savait penser les plaies qu'elle faisait. Mais ça donnerait l'autorisation à un bon médecin de torturer s'il peut réparer ensuite.
Elle avait en quelque sorte, au-delà de cette capacité à susciter l'amour chez tous les hommes qui l'approchaient, elle avait le don de cultiver l'amitié et de mettre les gens en relation. Alors ça, oui, vraiment, hein, c'était son...
Ça, dans une époque chahutée, elle a été un trait d'union entre les parties. Elle était apaisante, elle était profondément bonne. Elle avait horreur de l'esprit de parti qui a infecté cette société si chahutée. Et là, elle savait penser les plaies. L'union qu'elle a faite autour de Chateaubriand a rendu possible en grande partie l'écriture des mémoires.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle n'avait pas d'exclusive pour les hommes. Elle était aussi très gentille envers les femmes, hein, ça, il faut le dire.
Alors, je n'ai trouvé aucun élément qui me permette d'en douter.
Elle ne les humiliait pas. Voilà. C'est la part d'une femme très belle. Tout le monde les aime, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards.
Elle ne faisait pas de jalouse.
Non.
Oui, c'est ça. Donc, une espèce de douceur générale. Et alors, est-ce que cette capacité à mettre les gens en relation se doublait, comment pourrait-on dire, d'un sens du salon, comme on l'avait connu chez Madame du Deffand, chez Julie de l'Espinasse, chez Madame Helvétius, enfin, chez toutes ces grandes femmes de salon du XVIIIe siècle? Est-ce qu'elle était en quelque sorte l'incarnation au XIXe siècle de cet esprit du salon, de cet esprit du salon du 18e?
Je crois, mais c'est-à-dire que je crois que j'ai lu dans votre livre que, d'après je ne sais plus qui, en fait, Juliette est une vedette du muet.
C'est Jean d'Ormesson
qui a dit ça, c'est exact. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle avait le sens de la maïeutique. Elle disait peut-être pas grand-chose elle-même, mais elle avait l'art de faire briller.
Alors, muet, en sens où elle a tout gommé derrière elle, mais elle a su faire évoluer ses réceptions, les immenses réceptions mondaines de sa jeunesse au directoire, n'ont rien à voir avec le salon de l'abbaye au temps de Chateaubriand, et encore plus à la fin de sa vie.
Justement, on y vient, si vous voulez bien. Vous venez de prononcer le nom qui manque pour l'instant à notre évocation, celui de Chateaubriand, la grande liaison de Madame Récamier.
Un Un extrait sur Europe 1 du duo numéro 2 de Jean-Pierre Bor qui nous sert d'introduction pour parler de la liaison de Madame Récamier et de Chateaubriand.
Eh oui, ça c'est quand même le grand personnage, enfin l'un des grands personnages de sa vie. On a vu à quel point cette femme pouvait être gentille, douce. Elle avait un très grand don de l'amitié. Hein. Lamartine parlait à son propos de femme harmonique. Mais avec Chateaubriand, c'est tout autre chose, Catherine de Cour.
Ah, c'est la passion.
Oui, c'est ça.
Elle éprouve la première, et là, elle va un peu... Chateaubriand, je dis, venge toutes les pauvres poules piquées qu'elle a fait souffrir, parce que c'est elle qui va souffrir à son tour. C'est un homme infâme, c'est un homme qui finalement n'était pas son genre, pas plus qu'elle n'était le sien. Et ils vont, alors, on est tellement discrète qu'on n'est même pas sûr qu'ils étaient amants, je pense qu'ils l'ont été. Mais Chateaubriand était tout sauf un initiateur. Donc, ça n'a pas dû être très accompli, très réussi. Et ils vont faire un couple, mais je dirais autrement. Il va la tromper, elle va souffrir, mais c'est un couple qui va, à travers bien des vicissitudes, durer. Et il faut remarquer que des deux, et même des trois génies de l'époque, eh bien l'une, Madame de Staël, est sa meilleure amie, presque sa sœur. Chateaubriand, elle fait un couple la moitié de sa vie avec lui. Et le troisième, Ballanche, elle connaît avec lui une
Ballanche, union... Ballanche, oui, qui joue un rôle important aussi.
Une union mystique.
Oui, voilà. Donc, elle est au cœur, quand même, de ce pari des romantiques. La liaison avec Chateaubriand, vous êtes encore plus dubitatif que Catherine de Cour pour ce qui est de son accomplissement, vous, Hippolyte.
Oui, mais personnellement, je me suis toujours quand même demandé s'il n'y avait pas un problème chez Madame Récamier qui l'empêchait d'avoir des relations complètes. Bon, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Moi, personnellement, vous savez...
Catherine fait signe que non.
Je ne la connais que par ricochet. Je n'ai pas tenu la chandelle. Donc, par conséquent, c'est une hypothèse qui est partagée, d'ailleurs. Je me souviens d'ailleurs un jour j'étais à Coppet et la conservatrice du château de Coppet me montrait la chambre de Juliette et elle me disait oui, Sainte-Beuve disait qu'en matière de sentiments elle avait la réputation de ne jamais dépasser le mois d'avril. À quoi je me suis permis de répondre, y avait-il un mec qui l'empêchait de faire le juin? sous forme de question bien entendu, mais enfin c'est quand même un problème qui doit être posé, je crois que vous...
C'est Mérimée qui a lancé ça, parce qu'il était un grand ami d'Ampère, qu'il a tellement vu souffrir...
Il a voulu venger son ami
Ampère,
en fait.
Il a vengé Ampère. En disant,
enfin, parce que... Le grand savant. Hein.
Non, parce que enfin... le problème auquel vous faites allusion, il y a des effets secondaires qu'elle ne présentait pas du tout. Elle est au contraire physiquement très harmonieuse. Mmh. Elle ne se serait jamais engagée à épouser Auguste si elle pensait ne pas pouvoir avoir d'enfants. Sa mère avait envisagé dans son testament le cas où elle aurait des enfants. Donc sa mère était au courant et pensait qu'elle pouvait en avoir. Non, alors là, je crois qu'il faut...
Ce qu'on
vraiment...
peut peut-être dire, c'est qu'elle était en tout cas très serrée. Brale, notre Juliette,
ah oui.
Hein, ça incontestablement. Patrick nous envoie un message, il dit, entre Madame de Staël, Madame Récamier, comme toutes ces dames ont joué un rôle quand même central aussi dans cette période de l'histoire, il ne faut pas l'oublier.
Absolument. Le génie et la merveille qui était Madame Récamier, ce sont les deux phares de l'époque.
Et cette Madame Récamier qui savait choisir ses amis. Alors, on a parlé d'Ampère, on a parlé évidemment de Chateaubriand, j'ai dit un mot de Lamartine. Quand même, Tocqueville a fait partie, alors sur la fin, lui.
Tocqueville n'était pas vraiment un ami, mais enfin, disons qu'il faisait partie de son salon. Et d'ailleurs, une des conversations de salon, Juliette l'avait interpellé sur ce qu'il pensait de l'égalité. Et Tocqueville aurait répondu, l'égalité, ma chère Juliette, me fait toujours penser à vous. Les hommes ne savent pas vraiment l'atteindre. Elle recule devant eux sans cesse, mais sans jamais se dérober à leur regard. Et en se retirant, elle les attire à sa poursuite. Il la voit d'assez près pour connaître ses charmes. Il ne l'approche pas assez pour en jouir. Et il meurt avant d'avoir pleinement savouré sa douceur.
Comme c'est beau.
À quoi Juliette aurait répondu, désormais je vais m'appeler Juliette Égalité. Et Tocqueville aurait répondu, oui, sauf qu'il n'y a pas qu'au roi que vous faites perdre la tête.
Allusion à Philippe Égalité qui avait voté
voilà,
la mort de Louis VII. C'est, tout ça est d'un brio assez extraordinaire. Elle était un peu, en quelque sorte, l'initiatrice de cette stratégie du fuis-moi, suis-moi, je te fuis.
Marquise,
Cours après moi que je t'attrape.
Oui, c'est ça. En déployant ainsi vos grâces, c'est moins, je crois, pour m'éviter que pour m'attirer sur votre as.
Voilà. Oui, voilà, c'est cette idée-là. Alors, j'ai dit un mot de cet habillé au bois. Il faut dire, en plein cœur de l'actuel Paris, hein, on est donc au coin de la rue de Sèvres et de l'actuel boulevard Raspail, là, dans
Sèvres,
cette région.
Métro Sèvres-Babylone.
Voilà, c'est ça, oui, la rue de la Chaise, où se trouve l'année préparatoire de Sciences Po actuellement. Et donc, c'est là qu'elle va... passer toute la dernière partie de sa vie, pendant très longtemps quand même.
Oui, en se séparant gracieusement de son mari, sans éclat, sans scandale. Dès que commence sa liaison avec Chateaubriand, il va habiter près d'elle et avec la petite nièce qu'elle a adoptée, eh bien, elle habite la Bétie au bois. D'abord une toute petite cellule et puis un appartement beaucoup plus grand où elle va régner avec Chateaubriand sur le Paris politique et littéraire jusqu'à la fin de sa vie en 1849.
Oui, elle meurt, elle fait partie des victimes du choléra.
Elle a toujours redouté.
Ah oui.
Elle ne redoutait pas la maladie, elle a soigné beaucoup de phtisiques avec courage, des amis, mais elle a toujours eu une terreur du choléra. Et elle l'a fui, elle est allée habiter chez sa fille adoptive, mais elle était déjà atteinte.
C'est assez étonnant d'ailleurs, toutes ces personnalités qui meurent de ceux qu'elles avaient le plus redouté. Hein. Je pense évidemment à Louise de Savoie, par exemple. Enfin, c'était le cas d'un certain nombre. Catherine Decour, Juliette Récamier, L'art de la séduction. C'est édité chez Perrin. C'est une magnifique biographie sur laquelle, en quelque sorte, enfin, sur le personnage de Juliette, vous apportez un certain nombre d'éclairages assez nouveaux. Hein. Vous avez fait des découvertes toujours agréables lorsqu'on cherche, lorsqu'on travaille et qu'on arrive comme ça à répondre à un certain nombre de questions. Vous éclaircissez un certain nombre de mystères.
Les historiens creusent un sillon. En creusant un sillon, on découvre des petits filons.
Exactement. Merci beaucoup Catherine Decour et merci à vous Hippolyte Wouters. Alors la conversation n'est pas jouée en ce moment, mais en revanche très bientôt du 30 avril au 30 juin prochain, au Théâtre des Mathurins, la belle Cyrielle Claire, notre belle des belles à nous, va jouer L'Enclos ou la Liberté, donc une pièce sur Ninon de l'Enclos, signée Hippolyte Wouters.
C'est bien ça.
C'est bien ça.
Mais oui, tout à fait.
Donc à partir du 30 avril prochain au Théâtre des Mathurins. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette personne. Et j'ai un dernier regard sur la couverture du livre de Catherine Decour. Elle est vraiment tellement
sublime,
belle, cette Juliette Récamier. La beauté en personne.